maintenant notre conférencier de ce soir. Il s'agit donc de Daniel Cohen, qui est professeur de génétique médicale. Il a une formation très diverse, puisqu'il est musicien, avec un premier prix de piano, ingénieur, médecin, généticien, et il a été nommé à Paris professeur des universités en génétique médicale. C'est un des grands précurseurs dans le domaine que nous étudions actuellement, puisqu'en 1983 et en 1989, il a été fondateur de deux institutions génomiques pionnières, le Centre d'études du polymorphisme humain, CEPH, et le Généton, le premier centre génomique à fournir entre 1993 et 1996 les premières cartes intégrées du génome humain. Il est aussi fondateur de Millennium à Boston, président de Farnext et président fondateur de la Société internationale de pléothérapie. Je crois qu'il nous en parlera. C'est un des grands contributeurs de la génétique moderne, de la génomique et de la pharmacogénomique. Dans ses travaux des années 80, quand il a été initiateur de tous ces travaux, il a contribué aux premières cartes du génome humain et ça a marqué de manière très importante la biologie et la médecine avec des découvertes concernant le diabète, la maladie d'Alzheimer, la myopathie, la neurofibromatose, la sclérose en plaques, etc. Ses publications savantes dans des revues comme Nature, Science et Cell sont tout à fait nombreuses. Et il a écrit un ouvrage plus abordable, Les gènes de l'espoir, aux éditions Robert Laffont. Et je souligne la date, c'était en 1993. Donc je lui donne la parole pour nous parler de la carte d'identité génétique, dans une cinquantaine de minutes à une heure. Et puis ensuite, je reviendrai à cette tribune pour la séance des questions. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Bravo. Donc, on m'a demandé de parler de la carte d'identité génétique. Alors, tout d'abord, je suis extrêmement ravi d'être ici, parce que j'étais étudiant dans ce même amphi il y a de nombreuses années, puis ensuite professeur il y a aussi de nombreuses années. Donc, il n'est pas indifférent de faire ce cours ce soir, d'autant plus qu'il tombe à un moment assez important de l'évolution de la génétique et des médicaments issus de la génétique, dont je suis particulièrement heureux de pouvoir en parler ce soir. Donc la carte d'identité génétique est le titre qui m'a été proposé, que j'ai accepté, mais je vais essayer de vous convaincre, ça ne veut pas dire grand-chose, ça n'est pas très utile non plus, donc essayez surtout de savoir qu'est-ce que notre génome nous permet de prédire sur notre avenir et surtout sur les possibilités de guérir des maladies qui nous guettent. Hein. Alors, je vais faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. En général, on commence à parler de la génétique en parlant des gènes et des protéines, etc. Je pense que vous avez dû avoir tout ce type de formation avant. C'est très bien, à l'université de tous les savoirs, vous êtes censé tout savoir, sauf ce dont je vais parler. Donc, bon, j'imagine que vous savez ce que c'est qu'un gène, plus ou moins. Donc je ne vais peut-être pas commencer par ça, mais commencer par, pour mieux comprendre l'implication et à quoi sert la science génétique dans la compréhension du vivant, à vous parler des principes du vivant que l'on considère un peu comme complexes, mais qui ne sont pas si complexes que ça. Et c'est depuis qu'on arrive à comprendre un petit peu mieux, on se dit que c'est de plus en plus compliqué, et qu'il y a deux façons de faire. On dit c'est compliqué et on s'arrache les cheveux, ce que je ne pourrais plus faire maintenant. Ou on se dit qu'est-ce que je peux extraire d'une meilleure compréhension de la complexité, des nouvelles solutions pour l'homme. Et alors là, en général, on pense des solutions thérapeutiques, hein, évidemment. Donc, essayons de comprendre un petit peu mieux comment on voit le vivant et la réalité du vivant. Pour commencer par dire qu'évidemment, le vivant, c'est un enchevêtrement de fonctions extrêmement complexes, dont on n'en connaît que peut-être qu'un dixième. Il existe peut-être 100 000, 1 million, voire 1 milliard de fonctions différentes. On commence à en comprendre quelques-unes, mais à peine. vous donne un exemple de fonction, c'est maintenir la pression artérielle, maintenir le niveau de glucose. Bon, c'est des fonctions. Hein. Maintenir la capacité de mémoriser un événement, c'est une fonction. D'accord. Donc, une fonction, quelle qu'elle soit, dépend d'un réseau de molécules. Alors, un réseau de molécules, je ne sais pas si vous voyez bien le curseur ici, c'est quoi? C'est un ensemble de deux types de molécules. Les premières sont les protéines, tout le monde connaît. Les protéines sont issues des gènes, vous savez. Mais ces protéines dans le réseau ne sont pas seules, elles travaillent ou elles fonctionnent avec d'autres molécules qui ne sont pas des protéines, qui sont des substances qu'on appelle des métabolites. Métabolites, c'est pour dire tout ce qui n'est pas protéine, hein, en gros. Et surtout des petites molécules. Alors, vous avez les petites molécules, les glucides, les acides gras, les vitamines, les acides aminés, les ions, bon, tout le monde connaît ça. Et vous avez, encore plus petit que les petites molécules, c'est les métaux et les minéraux, donc aluminium, cuivre, zinc, fer, magnésium, calcium, sodium, bon. Et j'en passe, il doit y avoir des centaines, voire des milliers de minéraux différents. Donc, c'est cet ensemble de protéines ici en jaune et de petits métabolites en bleu qui fonctionnent ensemble, qui concourent, qui convergent de façon synergique pour donner une fonction. Ben, vraiment très compliqué à comprendre. Combien est-ce qu'il y a de molécules dans un réseau pour une fonction? Ben, ça dépend quel est le niveau que vous observez. Hein. Maintenir la pression artérielle, ça peut impliquer des réseaux de 5000 à 10 000 molécules, protéines et métabolites. Avoir le cerveau qui fonctionne correctement du point de vue mnésique, c'est peut-être des millions de molécules entre les grosses et les petites. Donc c'est des réseaux extrêmement complexes et importants. Et encore une fois, on devine à peine depuis peu quelle peut être la complexité moléculaire de ces réseaux. Voilà un exemple, voilà, pour faire peur, hein, genre de réseau. Là, pour la maladie d'Alzheimer, un réseau qui contrôle la mémoire, dans lequel chaque rond ou ovale représente une protéine. On a mis que des protéines ici pour simplifier. Et les petites flèches ici, vous voyez en rouge ou en noir, pour dire telle protéine est activatrice ou inhibitrice de telle autre. Tout ça pour vous dire que les molécules d'un réseau, qu'elles soient protéiques ou métabolites, travaillent ensemble. Et on dirait un mot très important, elles sont co-régulées ensemble. Je vais vous expliquer quelques secondes ce que ça veut dire. C'est que dans ce réseau coopératif, qui contrôle une fonction, dont la résultante est une fonction, en pratique, il y a deux types de molécules, celles qui activent le réseau et celles qui l'inhibent. D'accord. Donc vous avez en vert, qu'elles soient petites ou grosses, des protéines qui activent, et en rouge, des protéines qui inhibent. D'accord. Et la fonction résultante est la somme de ce qui inhibe et ce qui est activateur. Donc en pratique, quand c'est normal, il y a autant de vert que de rouge. Il y a autant de molécules vertes que de molécules rouges. Donc le réseau est équilibré, donc il conduit une fonction équilibrée dite normale. Voilà. Alors, donc, ce qui est important de comprendre, donc, c'est dans ce réseau ici, la quantité de chacune des molécules, des protéines ou des métabolites, la quantité, c'est ça qui permet d'ajuster le réseau ou de le faire basculer d'un état à un autre. C'est-à-dire, quand, vous allez comprendre tout de suite, voilà, le réseau a un état donné, si j'augmente la quantité d'une des membres, disons une protéine de ce réseau, que c'est une protéine activatrice, ben très rapidement, comme le réseau est régulé, pof, il y a quelques protéines activatrices qui vont augmenter et puis des protéines régulatrices qui vont diminuer pour que le réseau redonne le même résultat. Autrement dit, s'il y a une perturbation dans un sens, il va toujours avoir une perturbation dans un autre sens pour rééquilibrer le réseau. Voilà. Très facile à comprendre sans même faire de biologie. Donc les réseaux sont régulés. D'accord ? Et ce qui est important, c'est la quantité de chaque protéine qui est du coup plus ou moins activatrice ou inhibitrice selon la quantité produite. Donc ça, c'est la première chose. Donc une fonction dépend d'un réseau de protéines et de métabolites. chacune peut être ou activatrice ou inhibitrice, et en fonction de la quantité de chacune, la proportion relative de chacune de ces molécules, le réseau sera dans un état particulier. Je répète, donc, l'état de base du réseau, d'accord, c'est une proportion relative de toutes les molécules, une proportion relative particulière de toutes les molécules. D'accord. Mais cet état-là n'est pas le même pour tout le monde. Là, on est 250. En pratique, pour une fonction donnée, il doit y avoir autant d'états différents. D'accord. Tous les réseaux ne sont pas dans le même état chez tout le monde. D'accord. Et ça, le fait que les réseaux soient pas, les réseaux de chaque fonction ne soient pas les mêmes, ne soient pas dans les mêmes proportions, si vous voulez, explique la variation que vous allez observer entre les individus, que ce soit la variation normale, c'est-à-dire il y a des gens petits et des gens grands. Hein. La taille est une fonction qui dépend d'un réseau. Donc il y aura des gens, des petits et des grands, des gros et des maigres, des forts en maths, des moins forts en maths. Hein. Mais même, vous allez avoir des gens qui rentrent en pathologie parce que leur état de réseau est devenu pathologique. Et même comme ça, dans les réseaux pathologiques, il y a des variations. Pour une maladie donnée, bon, il y a des gens qui ont 17 de tension, d'autres qui ont 22 de tension. Donc il y a encore une variabilité parmi les malades. Et tout ça est lié à des états différents de ces réseaux. Alors si vous avez compris ça, alors tout le reste va devenir extrêmement limpide. Ça va peut-être vous permettre d'oublier les fantasmes qu'on se fait à propos de la génétique. Il faut commencer par comprendre ça avant d'essayer de comprendre ce que c'est la génétique. D'accord ? Est-ce que je recommence ? Non. Qui a compris ? Ah ! Bon. Parce que des fois, je pose des questions, ça me prend, c'est un vieux réflexe de professeur, donc suivez bien, parce que je peux vous surprendre au mauvais moment. Alors, maintenant, la question est la suivante. Donc, on a dit une fonction dépend d'un réseau complexe de protéines, de métabolites, qui sont dans des proportions relatives chacune, des quantités relatives différentes. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je passe d'un état d'un réseau à une valeur donnée à une autre valeur donnée? Qu'est-ce qui fait que moi j'ai 14 de tension et monsieur il a 11 ou 9? Ma femme elle a 9 de tension. Moi j'ai 16. Bon, qu'est-ce qui fait la différence? J'ai 15 et demi. Alors donc, qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est pas très compliqué en fait. Et c'est toute la génétique, le raisonnement va venir de là. Je vous ai dit que ce qui fait la différence, c'est la quantité respective de chaque molécule. Eh bien, c'est pas contrôlé de la même façon s'il s'agit d'une protéine ou s'il s'agit d'un métabolite. Quand il s'agit d'une protéine, ce qui contrôle la quantité de protéine, c'est l'orthographe du gène. La protéine est fabriquée par un gène, donc c'est l'orthographe du gène qui contrôle la quantité. On va en parler abondamment tout à l'heure. Rappelez-vous de ça. C'est pas le gène qui contrôle la quantité, c'est l'orthographe. C'est-à-dire, si avec un certain orthographe, j'ai une quantité donnée, avec un autre orthographe, je fabrique la même protéine, mais avec une quantité différente. Ça, c'est pour les protéines. Qu'est-ce qui conditionne la quantité des autres métabolites? Eh bien, c'est l'environnement. D'accord? Vous allez vite comprendre. Si dans le réseau de la tension artérielle, il y a le sodium, le sel, eh ben, il y a des gens qui mangent beaucoup de sel, eh ben, ils vont avoir beaucoup de tension. Puis il y a des gens qui mangent moins de sel, ils vont avoir moins de tension. Je vous donne le sel comme un exemple. Alzheimer, on s'est aperçu que c'est l'aluminium. Les gens qui mangent beaucoup d'aluminium, ou qui sont en contact d'aluminium, ont plus souvent l'Alzheimer que d'autres. Voilà. Donc, l'environnement va faire varier les proportions des métabolites. Donc, vous avez les gènes qui font varier les proportions des protéines, et puis les métabolites qui dépendent que de l'environnement, en gros. C'est pas trop compliqué. Hein, je vous donne l'environnement, je vous ai parlé du fer, du calcium, de l'aluminium. Le glucose que vous mangez sa quantité conditionnée par l'environnement. Les graisses que vous mangez, les vitamines, tous les métabolites en général viennent de ce qui est apporté de l'extérieur. Sauf dans un cas très particulier, quand vous êtes en stress psychique, une grande émotion, vous n'avez rien avalé pour l'instant, et bien votre organisme fabrique de nouvelles substances métabolites qui vont perturber l'état des réseaux. Donc il est très clair qu'une perturbation psychique peut entraîner une altération de fonction par ce biais, hein, sans changer les gènes, juste en changeant les métabolites. Donc voilà, l'orthographe des gènes pour les protéines, l'environnement interne ou externe, on va dire, pour l'orthographe des gènes pour les protéines, et l'environnement pour les métabolites. Donc, alors voilà. Je ne poserai pas de questions tout de suite, je vous laisserai tranquille. L'examen sera à la fin. Alors, donc, si je prends un réseau, vous voyez qu'il y a les protéines, pardon, il y a les molécules en rouge qui sont activatrices et en vert qui sont. En vert ça passe, hein, en rouge ça inhibe, c'est le feu rouge, ça passe plus. Donc, c'est en général équilibré, il y a autant de surface de vert que de surface de rouge. Hein. Bon. Alors, une première façon d'altérer le réseau, c'est la façon la plus brutale, c'est je casse le gène qui fabrique la protéine ici en question. Ici, j'enlève. Le gène ne marche plus, donc la protéine n'existe plus. D'accord ? Ça, c'est une façon de faire que la nature fait de temps en temps. Et donc, en réaction, effectivement, comme ce gène n'existe plus, la protéine n'existe plus, donc vous avez le réseau qui va se rééquilibrer comme il peut, mais en général, il y a beaucoup de choses qui vont augmenter et diminuer, parce que le réseau est régulé, mais ça ne va pas rétablir la fonction normale. D'accord ? Donc ça s'appelle une variation monogénique, liée à un seul facteur qui est l'absence, enfin, ou une anomalie dans un gène. Un seul. Et la seule anomalie dans le gène suffit à elle seule à créer le changement de fonction, de phénotype. Donc ça s'est dit monofactoriel et c'est monogénique dans ce cas-là. Un seul facteur, et ce facteur est un gène. Monofactoriel et monogénique. Bon. Alors ça arrive combien de fois dans la population ? Ben, il y a quelques traits qui sont monogéniques, très simples, normaux. La couleur des yeux, par exemple, hein, relativement monogénique, c'est un seul gène. Donc qui fait que quand les parents ont les yeux bleus, les enfants ont les yeux bleus, etc. Bon. Tout le monde connaît ça. Mais la plupart des caractères normaux ne sont pas monogéniques. Hein. On va en parler. Ils sont multifactoriels, on va en parler. Dans la pathologie, environ 5% des malades qu'on observe sont malades à cause d'une cause un seul gène. 5%. Pas 10, pas 85, 5. On s'en rappellera pour la suite. Maintenant, une autre façon d'altérer le réseau, on a vu la forme monofactorielle, monogénique, c'est une autre forme, la plus fréquente en réalité, c'est que il y a de façon simultanée plusieurs protéines qui augmentent ou qui diminuent, d'accord, et plusieurs facteurs de l'environnement qui augmentent ou qui diminuent, qui fait que l'état change. Et là, je vous donne quelques secondes d'attention, parce que toute la subtilité de la génétique complexe est de là. Donc, ce n'est pas un changement à un seul gène, c'est plusieurs facteurs. Deuxièmement, ce n'est pas uniquement les quantités fabriquées par les gènes, c'est les quantités fabriquées par les gènes et ET, les facteurs d'environnement, les changements métabolites. C'est les deux ensemble qui induisent un changement d'état de la fonction du réseau. Et là, dans cet exemple, pour changer le réseau en un état donné, je passe d'un réseau normal, disons, à pathologique, pour simplifier, je peux avoir ce type de raisonnement, et on va essayer de bien le suivre. Vous avez des G, ça veut dire gènes, 1, 2, 3. Vous avez E, ça veut dire environnement, c'est E1, E2, E3. Vous allez voir. Et vous avez les articles et les articles OU. C'est très important de comprendre la différence entre et OU. Ce que notre société a un mal fou à faire jusqu'à aujourd'hui, en dehors de la génétique. Hein. On va essayer d'expliquer. Ça veut dire quoi, ici? C'est-à-dire que pour avoir le nouveau caractère, donc un nouvel état de réseau particulier, donc le même caractère dépend de trois possibilités différentes séparées par un ou, ça veut dire ou ça, ou la première ici, ou la deuxième, ou la troisième. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui ont la première, les individus qui ont la deuxième, et les individus qui ont la troisième. C'est trois modifications différentes qui conduiront à la même maladie. J'ai trois façons d'avoir la maladie d'Alzheimer, ça veut dire, par exemple. Et on le connaît dans le diabète, on sait qu'il y a deux façons au moins d'avoir le diabète. On peut avoir le diabète parce qu'on n'a plus d'insuline, diabète de type 1, ou le diabète parce qu'on résiste à l'insuline, diabète de type 2. Pourtant, c'est la même maladie, trop de sucre. Là, c'est pareil, dans n'importe quelle maladie, vous pourrez sous-diviser, dire, eh ben, j'ai la maladie de type 1, c'est lié à première ligne, type 2 ou type 3. Qu'est-ce qu'il y a maintenant à l'intérieur de chaque ligne? G1 et G2 et G3 et E1, ça veut dire quoi? C'est pour avoir la première forme, il faut que j'ai un orthographe 1 sur le gène 1, un certain orthographe sur le gène 2, un certain orthographe sur le gène 3. Et il faut que j'ai les trois ensemble et pour être porteur de la combinaison, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que j'ai un facteur d'environnement E1 auquel je sois exposé. Donc si j'ai les trois gènes et que je suis exposé aux facteurs de l'environnement, je vais avoir la maladie. Eh bien, si j'ai les trois gènes ABC et que je suis exposé à trop d'aluminium, j'aurai la maladie d'Alzheimer. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pour avoir la maladie, mais ça n'est pas tout pour expliquer. D'autres individus, s'ils ont le gène G4, G5, G6, G7, G8 en même temps, et qu'en plus, ils boivent trop d'alcool, et qu'en plus, ils mangent trop de zinc, ils auront aussi la maladie d'Alzheimer. Une autre façon de faire. Et en plus, bon, alors je vous donne en cadeau, s'ils ont le gène 9 et 10, et qu'en plus ils fument, facteur 4, ils auront la maladie d'Alzheimer. Bon, oui. Bon, chaque facteur de l'environnement, le plus souvent, c'est des combinaisons de gènes différentes. Donc rappelez-vous, c'est des combinaisons de gènes, c'est pas où, c'est et. Donc si on vous demande, est-ce qu'une maladie, et à chaque fois on demande, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que l'intelligence est génétique? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que l'aptitude en maths? C'est des foutaises. Ça n'est ni l'un ni l'autre, ce sont les deux. Et. Mais on peut avoir une aptitude particulière, une maladie, avec de plusieurs façons différentes dans la population. C'est toujours un mélange gènes et environnement. Et. Mais il y a plusieurs combinaisons possibles de gènes et d'environnement. Voilà comment ça se passe. C'est pas bien compliqué à comprendre. Ça, ça a été démontré des dizaines de fois. Surtout dans les espèces simples comme les bactéries ou les levures, maintenant chez les souris. Et maintenant, on commence à le faire chez l'homme, c'est très clair. Hein. Bon, je crois qu'un de mes collègues vous a dû parler de ça dans le cancer du poumon, par exemple. On voit très bien qu'il faut certains gènes et fumer pour, mais pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Donc on oublie, c'est l'un ou l'autre. Est-ce que vous savez, en France surtout, on aime bien la pensée simple. Alors, c'est les gènes ou c'est l'environnement? C'est et les deux. Et le et, très difficile à conceptualiser pour les gens, pour des raisons que j'ignore. Surtout, moi je pense qu'on a du mal à comprendre qu'il y ait plusieurs facteurs en même temps, parce qu'on est dans une culture monothéiste où il y a Dieu un seul, et puis toute la vérité repose sur un. Donc dès qu'on sort de ces un, eh ben, on est un peu perdu. Non, c'est pas un. La réalité de la vie, elle est complexe. C'est plusieurs petits facteurs qui s'ajoutent les uns aux autres. Vous voyez donc l'autre chose aussi, que ces facteurs, les gènes 1, 2, 3, encore une fois, vous allez le voir, c'est pas j'ai le gène ou je l'ai pas, je l'ai toujours le gène. J'ai toujours le gène 1, le gène A, ou le gène 2, le gène 3, je l'ai toujours. Ce qui change d'un individu à l'autre, c'est l'orthographe du gène, ce qu'on appelle l'allèle. Donc, un gène donné, il y a plusieurs allèles, et quand je dis gène 1, gène 2, gène 3, c'est allèle 1 du premier gène, allèle 2 du deuxième, allèle 3 du troisième. N'oubliez pas, on a toujours les gènes. C'est justement l'orthographe qui change. Donc voilà, on va continuer à parler de ça, mais c'est peut-être la partie la plus importante pour comprendre. Une fois qu'on a compris ça, ce que je viens de vous dire, tout le reste va devenir encore plus simple. Je vais vous dire ça à chaque fois. Une fois qu'on a compris ça, voilà. En gros, c'est la vérité. Donc pour vous dire, ce genre de variation dite multifactorielle, gène et environnement, ça représente 95% de tout. D'accord ? votre taille, votre poids, votre intelligence, votre aptitude en maths, votre timidité, votre maladie, c'est multifactoriel. C'est pas un seul, c'est plusieurs choses et plusieurs facteurs d'environnement. Les gènes, on ne les connaît pas encore, et les facteurs de l'environnement non plus, je vous rassure. Hein. C'est l'objet de toute la recherche. Mais vous allez voir très vite qu'il est plus facile de trouver les gènes que les facteurs d'environnement. Beaucoup plus facile, et que ça aide beaucoup. Bon, voilà. Donc, pour vous dire, on résume, la plupart des maladies rares, parce qu'ils sont très invalidantes, qui touchent l'enfant, celles du téléthon, sont monogéniques. Là, il n'y a pas d'environnement. J'ai un seul gène cassé, j'ai la maladie. Mon sort est écrit à la naissance. D'accord. Maintenant, si je prends 100 patients atteints d'une maladie commune, prenons Alzheimer, pour ne pas changer, ou le cancer du sein, c'est pareil, vous aurez 3 patients qui auront une forme monogénique, c'est un gène qui est cassé, mais vraiment méchamment, donc j'aurai de la maladie, ça existe dans Alzheimer aussi, et dans le cancer du sein. Mais 97% ont une forme multifactorielle, c'est-à-dire des gènes d'environnement. Quelques-uns assez rares qui ont que des, c'est un ensemble, c'est, ils ont plusieurs gènes en même temps. Ce sont ces polygéniques qui altèrent le réseau, mais sans besoin d'environnement. C'est purement génétique, mais multigénique. Bon, ça arrive de temps en temps, mais souvent, c'est exactement ce que je viens de vous décrire, c'est plusieurs combinaisons de gènes et environnement qui sont alternatives. Ou 97%, dites-vous 90%, 90% des traits, de la pathologie ou des traits normaux, c'est selon ce schéma. Bon, alors je commence par le résumé parce que on remettra cette diapositive souvent. Pas beaucoup, ça. Alors, on va prendre ligne par ligne et puis essayer d'avancer là-dedans. Regardez simplement la ligne rouge. Donc, je veux dire, quand on parle de gènes, on va dire que les allèles du gène programment l'activité par la quantité. Ça veut dire quoi? Vous allez comprendre tout de suite, à la lumière de ce que je vous ai dit à l'instant, pourquoi c'est important de comprendre ça. Alors, donc le génome, voilà des individus ici, toutes les couleurs, enfin, chacun, je simplifie assez facilement, chacun a un génome, qui est l'enchaînement de plusieurs bases, A, C, T, 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 G, A pour le premier individu, A, T, 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 G, A, etc. pour le deuxième, et vous voyez qu'à cet endroit-là, il y a un orthographe différent, là j'ai C, alors que là j'ai T. L'orthographe n'est pas le même. Ça s'appelle, en anglais, single nucleotide polymorphisme, on dit SNP, bon. En français, on n'a pas trouvé encore l'équivalent. Toujours est-il, donc c'est une variation d'orthographe d'une lettre. Alors que ces SNP, il y en a énormément, il y en a à peu près 10 millions le long du génome, c'est qu'il y a à peu près 3 milliards de bases, de paires de bases, 3 milliards, donc il y a à peu près une tous les 300 bases, et ben n'est pas la même d'un individu à l'autre. Donc c'est évidemment ces différences-là d'orthographe tombent n'importe où dans les gènes, ici, ou entre les gènes, évidemment. Vous voyez qu'un gène peut avoir des centaines ou des fois un millier de différences d'orthographe. Si les gènes sont très longs, un millier de différences. Donc voilà, donc on a ça dans la tête. Donc l'orthographe des gènes varie d'un individu à l'autre. On l'a tous, les gènes, mais c'est l'orthographe qui change. Donc, si je prends ce gène ici, ce merveilleux gène vert ici, qui est sur, vous voyez l'ADN qui est ici, le gène que j'ai dessiné, j'ai dit, bon, j'ai simplifié pour ne pas compliquer. Il y a 4 points de différence. D'accord? Le point ici, c'est la base 1 ou la base 2. Je ne l'ai pas appelé A ou T, ça peut changer. C'est toujours 2, hein, l'une ou l'autre. 1, 2. Donc, ici, pour le deuxième endroit, SNP, c'est aussi 1 ou 2 dans la population. Pour le troisième, c'est 1 ou 2. Pour le quatrième, c'est 1 ou 2. Vous voyez, le 2 est là. Et bien, selon le 1 ou le 2 présent, vous avez des formules. Il y a des gens qui auront 1, 1, 1, 1, il y a des gens qui auront 2, 1, 2, 1, des gens qui auront 1, 2, 2, 1, etc. Donc vous aurez différentes combinaisons. Donc autant d'orthographes différents du même gène. D'accord ? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à chaque orthographe, on fabrique la protéine, mais on ne va pas la fabriquer dans la même quantité. Donc l'orthographe, par ici, c'est un exemple, hein, arbitraire. Ben, je dis 1-1, fabrique une grosse quantité. Vous voyez, c'est en haut du curseur. 1-1-2-1, ici, par contre, une petite quantité. J'ai mis en bas du curseur. Entre, là, vous avez les valeurs intermédiaires. Donc, en gros, à chaque allèle, hein, on appelle allèle chaque variant ici, hein, chaque allèle correspond à une quantité différente de la protéine. Voilà. Ce sont des allèles normaux. Là, hein, ce sont, tout le monde a le droit d'avoir un allèle, le premier, le deuxième ou le troisième. Simplement, on ne fabriquera pas la même quantité de la protéine. D'accord. Donc, chaque protéine, on la fabrique en quantité variable, si vous voulez, d'un individu à l'autre. Voilà. Très facile à se rappeler. Alors maintenant, deuxième notion importante, c'est que là j'ai mis 5 allèles, le rouge, le rose, le jaune, le bleu, le bleu clair, le bleu foncé, chaque fois une quantité différente. Ça c'est, j'ai identifié un certain nombre d'allèles dans la population. Maintenant, je peux compter dans la population combien d'individus ont le premier, combien ont le deuxième, combien le troisième. D'accord ? Hop ! Là, j'ai mis la fréquence. Ben, j'ai 27% de la salle qui a le premier allèle, 10% de la salle qui a le deuxième, 28% au troisième, 15% au quatrième et 20% au cinquième. Donc, ça s'appelle les fréquences. Chaque allèle a une fréquence dans la population. D'accord. Donc, 20%, ça veut dire qu'en gros, un individu sur 5 a l'allèle bleu ici. Voilà. D'accord. Voilà. Retenons ça. Hein. Chaque gène plusieurs allèles normaux qui conditionnent chacun une quantité différente, que chaque allèle a une fréquence particulière dans la population. C'est clair ? J'en vois qui sont déjà... qui n'osent pas dire qu'ils ne comprennent pas. On les aura tout à l'heure, pendant les questions. Voilà. Bon. Donc, si je prends plusieurs gènes, ça c'est pour montrer la complexité génétique, hein, plusieurs gènes, chacun va avoir plusieurs allèles qui chacun vont conditionner une quantité différente et chacun aura une fréquence particulière. D'accord, donc voilà le code barre de la population. Pour chaque gène, vous avez un code barre ici où chaque, l'épaisseur de chaque trait correspond à la fréquence de l'allèle. Quand vous changez de gène, vous avez d'autres fréquences. Pas trop compliqué, ça. Qui a compris ? Ah ! Le nombre de mains qui s'érige est en baisse diminution. Je vais être obligé de tout recommencer. Je ne sais pas où, mais... Bon, on retient. Chaque gène, plusieurs écritures, dit allèle. Chaque allèle a une fréquence particulière dans la population. Vous allez voir pourquoi c'est important. Et chaque allèle conditionne une quantité de protéines particulière. Bon. Maintenant, parlons d'hérédité. Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on dit, ah, si c'est génétique, c'est héréditaire. Eh bien, c'est faux. C'est faux et archi-faux, dans la plupart des cas. Vous savez pourquoi ? Personne ne sait pourquoi. On ne vous a pas expliqué ça au cours précédent ? Quand même. Eh bien, on va faire la différence. Quand le trait est monogénique, la maladie est monogénique, ça va être héréditaire. Ça veut dire quoi, héréditaire ? Ça veut dire que c'est transmissible, la maladie est transmissible de génération en génération, ou selon des règles claires. C'est qu'on voit la maladie revenir d'une génération à une autre, ou plusieurs individus affectés dans la même génération. C'est ça que ça veut dire, héréditaire. Génétique, ça veut dire que c'est écrit quelque part. C'est pas pour ça que c'est héréditaire, on va voir tout de suite. Lorsque le trait est monogénique, c'est héréditaire. Quand le trait est multifactoriel, même s'il y a plein de gènes qui interviennent, même s'il est multigénique sans facteur d'environnement, même s'il n'y a pas facteur d'environnement, s'il y a plusieurs gènes en même temps, eh ben, ça n'est pas héréditaire. Ou très peu. C'est un choc, hein. Donc ça peut être complètement génétique et pas héréditaire. Eh oui. Je vous explique. D'ailleurs, c'est une simplicité biblique. Hein. Mais on ne le dit jamais parce qu'on a peur de le dire. Hein, parce que on est tellement associé à la génétique et à l'hérédité que... Voilà, ici, vous avez un monsieur ou une dame avec deux... Vous voyez, chaque double trait, c'est une paire de chromosomes. Donc le génome, il y a, et en double, en fait, on a deux génomes, un qui vient du père, celui du haut, et un qui vient de la mère, celui du bas. Hein, spermatozoïde a porté un génome, l'ovule un autre génome, on a donc deux génomes. Ce qui est pratique, c'est quand on a un qui ne marche pas, l'autre remplace. Alors, donc, quand un gène il va être situé ici, a une copie, donc on a deux copies de chaque gène, mais une des copies ne marche pas. Donc on va avoir une maladie monogénique. Ne marche pas. Donc cet individu ici, il est atteint, il est malade. Maintenant, il va avoir des enfants. Donc au moment où il va fabriquer les ovules, les gamètes, bon, il y a la moitié de ces gamètes qui vont porter le mauvais gène, l'autre moitié, celui-là, qui vont porter le bon gène. Bon, en gros, ces gamètes vont s'apparenter avec le génome, l'autre gamète d'autres parents, pour refaire des individus, ben vous voyez qu'en gros, un individu sur deux, celui-là est atteint, celui-là n'est pas atteint. Donc, à cause de cette ségrégation du génome paternel-maternel, de génération en génération, je transmets, j'ai toujours une chance sur deux d'avoir la maladie qui survient de père en fils ou de mère en fille, ou d'un parent, d'une couche de parent à l'autre, aux enfants. Une chance sur deux, donc je vais voir beaucoup de cas dans la famille. Hein, si c'est une maladie grave, vous dire mon père avait ça, ma mère avait ça, donc vous allez avoir une récurrence familiale importante qui dit que c'est héréditaire. Bon, ça c'est simple, c'est ce que vous avez pris à l'école ou à l'université de tous les savoirs. Donc, un gène, c'est héréditaire. Maintenant, si je dis la maladie, comme tout à l'heure, rappelez, G1 plus G2 plus G3 plus G4 plus G5, c'est pas d'avoir un seul, mais il faut que j'ai les 5 en même temps. Donc le monsieur malade ici, il a les 5. Voilà, il est où là ? Voilà. Il a les 5 gènes rouges. D'accord ? Maintenant, je prends le premier. Il faut qu'il pour avoir son enfant malade, il a une chance sur deux de transmettre le mauvais, premier coup. Le deuxième, une chance sur deux. Le troisième, une chance sur deux. Le quatrième, le cinquième, une chance sur deux. La chance qu'il transmet les 5 en même temps, eh bien, c'est la multiplication. C'est une chance sur deux, divisé par 1 sur 2, multiplié par 1 sur 2. Ça fait combien ? 3%. Qui l'a dit ? Bravo. Ouais. C'est-à-dire, quand je dois, à cause de ce 1 sur 2, finalement, quand je dois transmettre en même temps un paquet de 5 mauvais allèles, pour les transmettre en même temps, j'ai que 3% de chance. Donc, c'est-à-dire que 3% de mes enfants seront malades. Donc, il faut que j'ai fait 200 enfants pour avoir deux. Mais c'est ça. Donc, en pratique, ça n'est pas héréditaire. Parce que les familles ne sont pas assez grandes. Quand on fait 3, 4 enfants, le diable, si on en fait 10, on a peu de chances de voir transmettre une maladie multigénique. Donc, c'est pour ça qu'on dit, ma mère avait Alzheimer, est-ce que j'aurais Alzheimer ? Si c'est multigénique, c'est peu de chance. Si madame, votre mère avait la forme monogénique d'Alzheimer, une chance sur deux. Mais si c'était la forme multigénique, surtout si vous ne mangez pas trop, et surtout si vous ne buvez pas trop, et surtout si vous ne mangez pas d'aluminium, peu de chance, vous avez quoi que ce soit. Voilà. Combinaison, pas d'hérédité. C'est génétique, c'est pas héréditaire. Chez les souris, vous voyez, les souris, vous faites des croisements, elles font 1000 petits, sur 3%, vous les verrez. Hein. Chez l'homme, on ne voit pas. Bon. Donc, troisième élément, les maladies multigéniques. Alors, on a vu, le premier élément, c'est les allèles qui programment la quantité. L'hérédité, en pratique, monogénique, c'est héréditaire. Multifactoriel, c'est pas héréditaire. Maintenant, l'autre truc, c'est que les maladies multifactorielles comportent plusieurs sous-types moléculaires. C'est la résultante de ce que je viens de vous dire là. D'accord ? Je peux avoir une combinaison gène-environnement ou une autre, plusieurs combinaisons différentes et indépendantes peuvent entraîner la maladie. Donc, j'aurai plusieurs sous-types de la même maladie dans la population de malades qui n'auront pas la même sévérité et peut-être probablement pas le même traitement. D'accord ? Aujourd'hui, la médecine ne sait pas encore faire ça. C'est le futur. Et on va pouvoir diviser les malades selon des sous-types particuliers et leur donner le traitement qui leur convient et pas le traitement qu'on donne à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la lubie, toujours monothéiste, je veux donner un seul médicament qui va guérir tous les malades de la même maladie. Les trois assertions sont fausses. Un seul est faux, un seul médicament est faux, à tous les malades c'est faux. D'une seule maladie, c'est faux. Bon, alors, donc, la génétique nous permet d'avancer dans ce sens et de mieux comprendre comment on peut faire, au contraire. Donc, pour continuer à avancer dans la complexité, on va parler d'un autre phénomène qui est de maintenant très bien documenté, qui s'appelle la pléiotropie, qui est une complexité en plus, mais qui est très utile, il s'avère qu'elle est très utile pour progresser en médecine et en thérapeutique. C'est quoi la pléiotropie ? Pléiotropie. Alors, prends un gène ici, vous savez que le gène fabrique un ARN qui fabrique une protéine. Cette protéine, si c'est une enzyme, elle a une activité particulière, elle dégrade telle substance. Ça s'appelle la fonction primaire de la protéine, enzyme, récepteur, si vous voulez. Mais cette fonction intervient de concert avec d'autres fonctions pour faire un réseau, on en a parlé tout à l'heure, enfin c'est le réseau, en fait, pour faire des fonctions beaucoup plus élaborées. Donc une protéine a une fonction primaire qui intervient dans un réseau qui est une somme de fonctions et de petites fonctions qui donnent une fonction élaborée, l'attention, le sucre, etc. Ça, c'est le schéma qu'on apprend à l'école et même encore à la fac. De temps en temps, encore. En fait, c'est pas du tout ça. La réalité, elle est comme ça. Le gène ne fabrique pas un seul ARN, mais il en fabrique 3, 4, 10, des fois 100 différents. Chaque ARN ne va pas donner une seule protéine, il va en donner 2, 3, 4, 5, 10 fois. 10 protéines différentes. Chaque protéine peut avoir plusieurs petites fonctions primaires. Une enzyme peut être aussi un facteur de transcription. Ça commence à être bien documenté. Même la fonction primaire peut être différente. Ça dépend un petit peu dans quel environnement elle tombe. Et en plus, pour une fonction primaire donnée, ici, elle peut participer à plusieurs réseaux différents et concourir à des fonctions complètement différentes. La pléiotropie, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, une protéine peut avoir plusieurs fonctions qui n'ont souvent rien à voir sur le plan, en tout cas, de notre logique de rapport. D'accord ? Pléiotropie. Et pourquoi c'est comme ça ? C'est pas pour nous embêter. C'est la nature qui a fait très simple, en fait. C'est que la nature a créé des protéines au fur et à mesure de l'évolution, en partant des bactéries, elle a créé une protéine, 10, 100, 1000, 200, 20. Et puis, chaque fois qu'il y avait une nouvelle fonction à créer, elle l'a pas fait en créant des nouvelles protéines. Trop compliqué. Ça arrive, hein. C'est très clair qu'il y a des protéines qu'on retrouve que chez l'homme, par exemple. Enfin, ça n'a pas été le mécanisme majeur de création de nouvelles fonctions. Ce qu'elle a fait, elle a plutôt pris des anciennes protéines et les a assemblées avec d'autres. Elle a refait des mélanges et créant des fonctions avec des mélanges nouveaux, d'anciennes protéines. Donc c'est obligatoire qu'une protéine peut intervenir dans plusieurs fonctions, puisqu'elle peut intervenir dans plusieurs mélanges différents. Donc c'est tout à fait naturel. Alors maintenant, la pléiotropie, il y a toute une littérature là-dessus, surtout une analyse qu'on appelle une façon de répertorier la multifonctionnalité des protéines, qu'on appelle l'analyse du pléome. Pléome, le pléos, le grec, qui signifie plusieurs. C'est là où chaque protéine, on dit, elle intervient dans la fonction 1, la fonction 2, la fonction 3, la fonction 4. Alors, casse-tête chinois épouvantable, on se dit, ah là là, si en plus, une protéine elle fait 10 fonctions différentes, je ne sais même pas lesquelles, on est cuit pour la suite. Bon, elle va pas du tout. Voilà. Message d'espoir. Alors, pourquoi c'est un problème ? Alors, je vais dire pourquoi c'est un problème. Parce qu'on va prendre maintenant cette petite scude là, cette fusée qui est en fait un médicament. Qu'est-ce que c'est qu'un médicament ? C'est une petite molécule qui va s'accrocher sur une protéine et va justement augmenter ou diminuer son activité. Pas la quantité, juste il va inhiber ou diminuer sa... C'est un modulateur, un médicament. C'est très simple. Si c'est une enzyme, je fais un inhibiteur de l'enzyme. Si si c'est un récepteur, on peut faire un activateur, un agoniste ou un antagoniste. Mais c'est toujours la même chose, ça va s'accrocher sur une protéine et ça va moduler l'activité dans un sens ou dans l'autre. Donc cette protéine, voilà, vous êtes en toute bonne foi, vous dites, bah, j'ai trouvé voilà, cette protéine-là ici, c'est la protéine de la maladie d'Alzheimer, j'en suis sûr, je vous le signe. Bon, paf, faites un médicament, un inhibiteur, paf, et vous modulez cette protéine, mais celle-là, elle-même, elle a deux fonctions, et puis ces fonctions-là, elles interviennent dans trois fonctions différentes. Bon, vous allez, effectivement, peut-être à cause de l'action auquel vous pensez avoir un petit effet sur la maladie, mais vous allez avoir aussi des effets ailleurs. À cause de la pléiotropie. Des effets indésirables. C'est à cause de la pléiotropie. Donc ce n'est pas une bonne chose. Le fait est, c'est que tous les médicaments sont toxiques. Tous les médicaments sont toxiques. Surtout les nouveaux. Ouais. On va en parler largement. Surtout les nouveaux. Bon. D'accord ? Donc, je vous ai dit ici, voilà ce que c'est que la pléiotropie, et je vous dis, c'est une complexité bien utile. Ça a l'air d'embêter, mais on peut tourner le problème à l'envers. Au lieu de dire, ah ben, c'est un casse-tête qu'un médicament puisse agir sur plusieurs fonctions, je veux dire, ben, si un médicament agit sur plusieurs fonctions, eh ben, il peut peut-être guérir plusieurs maladies différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. J'inverse le problème. Donc, est-ce que je peux utiliser le même médicament pour plusieurs maladies différentes? D'accord. Donc, ça, on va en parler largement. C'est un des supports essentiels de la nouvelle façon d'imaginer les traitements qu'on appelle la pléothérapie, qui s'appuie largement sur le concept de pléiotropie. D'accord. Voilà. Donc, on va continuer. Très bien. 10 minutes. Donc, une fois qu'on a compris tout ça, je veux dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire maintenant pour traiter les maladies, une fois qu'on sait ce que c'est que la génétique, qu'on a des bons outils d'analyse génétique, et puis qu'on a une bonne perception de la complexité, qu'on a des solutions qui se dessinent. C'est de conséquences médicales et thérapeutiques. Pour vous dire que d'abord, l'analyse génétique globale qu'on peut faire maintenant, c'est-à-dire qu'on peut regarder tous les gènes, va permettre d'identifier ce qu'on ne connaît pas du tout encore, c'est les réseaux. Quels sont les réseaux perturbés dans la maladie d'Alzheimer? J'ai une vague idée que l'aluminium, le zinc, mais où sont ces réseaux-là? Oui, qui sont-ils? Est-ce que je peux les identifier par la génétique? Sans connaître les facteurs d'environnement. Je sais qu'il y en a, mais je ne les connais pas. De toute façon, c'est pas trouvable facilement, les facteurs d'environnement. Il n'y a pas de machine à trouver les facteurs d'environnement. Par contre, il y a des machines à trouver les gènes associés. Donc on va commencer par là, parce que c'est facile. C'est facile, on connaît tous les gènes, on a tout le génome, maintenant c'est facile. Donc comment on fait? Donc voilà, je reprends, pour rappeler tout à l'heure, chaque gène, il y a une dizaine de gènes, chacun a une série d'allèles. Bon, il s'avère que par les méthodes de chip qu'on a dû vous expliquer 10 fois, on peut lire pour chaque gène tous les allèles possibles. Bon, donc on sait prendre un individu et dire pour le gène 1, voilà les 10 allèles qu'il a, pour le gène 2, voilà les 10 allèles qu'il a, etc. Donc c'est possible. Ça prend quelques semaines pour analyser 1000 personnes. C'est extraordinaire. Par une méthode que j'ai inventée par ailleurs, je suis très fier. Bon. Mais je reste très modeste sur ce sujet. Bon. Alors, une fois de plus. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend des contrôles, 1000 contrôles, pas malades, 1000, des cas, 1000 Alzheimer, je reprends le sang et je regarde gène par gène quels allèles ils ont et je compte. Tout de suite, je prends le premier gène, voilà tous les allèles chez les contrôles avec la fréquence selon l'épaisseur du trait, Ici, tous les gènes, là, ici, donc chaque allèle, je mesure la fréquence chez les contrôles et je mesure la fréquence chez les cas. Et je dis, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a un allèle qui est plus fréquent? Il y en a une là? Non. Bon, bravo. Je n'avais pas commencé là où il y a une différence. Bon. Deuxième, je regarde, le profil, le code barre, c'est exactement le même, donc il n'y a pas de différence. Troisième, regardez celui-là, le vert, là. Il est bien plus de la moitié chez les malades et moins d'un quart chez les contrôles. Donc, l'allèle vert est augmenté ici. D'accord. Donc, il y a un allèle qui est plus fréquent. Bon, on dit il est associé, le gène est associé, l'allèle est associé. Donc, le gène fait partie d'un réseau de la maladie en question. Mais j'en ai qu'un seul. Alors, je continue. Deuxième nom, troisième nom. Ah! Bon, là, j'en ai regardé. Il y a deux qui ont un allèle qui est plus fréquent chez les malades. Le bleu ici, bleu, est plus fréquent chez les malades, chez les contrôles. Ici, le vert, plus fréquent chez les malades, chez les contrôles. Bon, c'est vrai, c'est un travail idiot. Regardez les gènes un par un, compter, dire, ah bah, lui, il y a 14%, l'autre, il y a 25%. Gènes associés. Est-ce que c'est significatif? Oui, gènes associés. Donc, combien je vais en trouver? Un certain nombre comme ça. Bon. Ça, c'est une autre façon de présenter les choses. Hein. Je peux reporter par tous les types-là combien c'est statistiquement significatif. Mais c'est toujours la même chose. J'affirme qu'à tel niveau de significativité, tel allèle pour ce gène est plus fréquent chez les contrôles, chez les malades, pour les deux gènes. D'accord. Là, j'en ai vu que deux. Maintenant, je peux les identifier tous. Puisque je peux regarder les 20 000 ou 30 000 gènes connus. D'accord. Et quand on fait l'expérience, en général, dans une maladie, on va en trouver 500 ou 1000. Normal, les réseaux font eux-mêmes 1000 ou 2000. Donc je trouve facilement 500 à 1000 gènes associés pour une pathologie, à une pathologie, et qui sont forcément les contrôleurs des niveaux de pathways qui sont perturbés. Bon, je connais pas les réseaux, mais je connais les gènes qui sont impliqués dans la perturbation du réseau. Donc j'ai identifié le réseau, d'une certaine façon. Donc ce qu'on sait très bien faire maintenant, donc on peut identifier tous les gènes associés, les 1000, déduire les réseaux perturbés sans même connaître les facteurs de non-génétiques, je ne les connais pas, mais je n'ai pas besoin. Donc du coup, je peux identifier dans ce réseau, dans ces réseaux, il y en a plusieurs, quelles sont les protéines qui pourraient être des cibles pour les médicaments, d'accord ? En sachant que, effectivement, quand j'ai un réseau de 1000 ou 2000, il y en a 5% qui sont déjà ciblés par des médicaments existants, pour d'autres choses, à cause de la pléiotropie. Donc dès que j'ai les réseaux, je peux déduire une série de médicaments qui existent déjà, que je pourrais redonner pour cette nouvelle indication. Principe de la pléothérapie. Donc je recommence, je prends 1000 malades, 1000 contrôles, je fais l'analyse génétique globale, je trouve des gènes associés, je déduis trois réseaux perturbés, hein, qui contiennent les gènes associés. Alors un exemple, un réseau perturbé, voilà, une centaine de protéines. Toutes ces protéines se parlent entre elles, hein, dans un réseau, elles sont co-régulées, il y a des flèches partout. Celles qui sont en violette, ce sont celles qui sont issues de gènes associés, la moitié, à peu près ici. Celles qui sont en bleu ne sont pas issues de gènes associés, c'est pas grave. Hein. Vous voyez que ce réseau, la moitié des gènes de ce réseau est génétiquement associé à la maladie. Donc le réseau est forcément perturbé dans la maladie, il n'y a pas de mystère. Hein. Donc comme ça, on a fait au laboratoire, on a trouvé les réseaux perturbés de Alzheimer, des neuropathies, des sclérose latérale amyotrophique, des maladies gravissimes. On n'avait aucune idée de quoi que ce soit. Là, on a compris qu'est-ce qui ne marchait pas chez Alzheimer. C'est énorme. Mais effectivement, sur ces 500 protéines, il y en a qui sont déjà des cibles de médicaments. Donc on a déduit une cinquantaine de médicaments potentiels, anciens, jamais indiqués pour la maladie d'Alzheimer, mais qui pourraient servir pour la maladie d'Alzheimer. D'accord ? Voilà, le réseau perturbé vous permet d'identifier toutes les cibles thérapeutiques potentielles au sein des réseaux et donc ou bien de penser à dénouveler des médicaments ou surtout faire des hypothèses avec des anciens médicaments. Donc, comment on va se servir de ça? Deuxième élément important, la pléiotropie vous permet de réutiliser des médicaments. L'erreur à ne pas faire, c'est de faire ce que l'on fait depuis des années, des 20, 30, 40 ans, c'est en Occident, dans nos médecines intelligentes, c'est de traiter la maladie avec un seul médicament. Si je traite avec un seul médicament, qu'est-ce qui va se passer? Je vais taper sur une protéine, voilà, on va faire ici. Eh bien, le réseau est régulé, on vous dit depuis tout à l'heure, hop, il va se remettre en forme, les autres protéines vont se compenser, et votre médicament ne fera rien du tout. Parce que c'est régulé. Donc, comme vous êtes têtu, je vais dire, ben, je vais donner une forte dose du médicament. Je veux bien, bon, je veux fort, très fort. Voilà, ça fait un petit peu, effectivement, le réseau ne peut pas trop... Mais du coup, comme votre protéine est pléiotrope, elle va activer encore plus d'autres maladies, effet toxique. Et quand vous augmentez la dose, et que votre médicament n'est pas toujours spécifique de la cible, il va aller taper d'autres cibles, vous allez encore avoir d'autres effets toxiques. Donc résultat, ça marche mal, et c'est toxique. Depuis 50 ans, on fait ça. Et on continue. Parce qu'on a un esprit monothéiste, monothérapie, etc. Donc ça ne marche pas, et c'est normal, naturellement, que ça ne marche pas. Ça ne pouvait pas marcher. Il y a eu des exemples célèbres qui ont fait penser que ça marchait. C'est l'insuline dans le diabète de type 1. Bon, c'est vrai que ces gens n'ont pas d'insuline. Bon, c'est pas trop difficile, mais il n'y a pas d'insuline, de paradigme insuline dans toutes les maladies de la Terre. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un mélange de petites choses. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous avez des traitements qui sont épouvantables. Qui n'est pas malade un petit peu et n'a pas pris des médicaments ou pour la tension? Alors, la tension, c'est un exemple particulier. J'ai pris un mauvais exemple. Il y a trois maladies qui ont bien compris ça. L'hypertension, on ne prend jamais un seul antihypertenseur, on mélange deux, trois ou quatre, et on baisse les doses de chacun, et c'est très efficace, il n'y a pas d'effet toxique, parce qu'on utilise des doses très faibles, et c'est synergique. Donc, le cancer, on utilise des mélanges, des polychimiothérapies, c'est-à-dire des mélanges de médicaments qui sont moins toxiques, parce qu'on met moins de doses, et très efficaces. Et vous avez le fameux exemple, la trithérapie dans le sida, on met trois antiprotéases pour baisser les doses et être beaucoup plus efficace. Donc ça existe déjà, mais ce n'est pas systématisé. C'est toujours le médecin qui dit, tiens, je devrais mélanger pour voir. Mais au moment où on découvre le médicament, on ne pense jamais à découvrir, à mettre au point des mélanges. C'est une aberration totale. Donc, la pléothérapie, c'est identifier les réseaux perturbés, on l'a dit, identifier les mélanges de médicaments, parce que chaque réseau, c'est 50 médicaments, je vais pouvoir faire des mélanges, qui seront plus efficaces parce qu'ils auront une action multifactorielle, comme le processus lui-même est multifactoriel, la guérison, elle sera aussi multifactorielle. On ne peut pas avoir quelque chose qui est perturbé de façon multifactorielle et traité de façon monofactorielle. C'est aberrant, hein, non, ça n'a pas de sens. Ça sera moins toxique parce qu'on va utiliser des doses plus faibles. Et en plus, des médicaments qui existent déjà pour d'autres choses, donc on connaît parfaitement leur toxicité, totalement tolérée. En plus, vous allez mettre des doses plus faibles, donc le risque est encore moindre. D'accord ? Et c'est économique parce qu'effectivement, elles sont déjà développées, chacune d'entre elles. Hein ? Donc, la pléothérapie, c'est ça. C'est-à-dire, je prends une dizaine de maladies ici, il y a toujours des médicaments qui existent, qui sont donnés de façon monothérapique. Eh ben, je vais mettre un système génétique en place de screening pour voir si je peux mélanger trois médicaments et les donner à une autre maladie où il n'y a rien, mais avec des doses beaucoup plus faibles de chacun des trois médicaments. Et pour arriver à faire ça, il faut faire une analyse génétique particulière. Donc, est-ce que c'est du fantasme ou de la réalité? Alors, je vais vous montrer que c'est une réalité totale. C'est tout à fait possible. Donc, on a émis cette hypothèse-là il y a quelques années. On se dit, on va pouvoir le démontrer chez l'homme. Et d'abord, en commençant par l'animal. Donc on a pris une maladie qui est une maladie orpheline pour l'instant, en attendant de passer à la maladie d'Alzheimer, c'est une neuropathie périphérique. C'est des gens qui ont une maladie très sévère où les nerfs périphériques dégénèrent et ils ont une atrophie progressive des muscles, de la sensibilité des muscles et ils finissent par être complètement impotents. C'est pas une maladie assez, ils n'en meurent pas, mais ils sont handicapés toute leur vie. D'accord. Donc, on a trouvé le réseau par la génétique, on a fait, et de là, on a déduit une cinquantaine de médicaments potentiels. On les a testés un par un chez l'animal qui a la même maladie. D'accord ? Alors, la maladie chez l'animal, bon, comment on sait ? Bon, on les fait marcher sur des tiges, et puis on voit combien de temps ils restent sur la tige sans tomber, parce qu'ils puissent sont forts, et puis ils restent longtemps. Ou bien on mesure combien de fois ils tombent par unité de temps. puis sont malades, et puis tombent souvent. Bon. Ou bien ils tombent beaucoup, ou bien ils restent longtemps sur la tige. D'accord ? Donc on a testé ici l'animal normal. Il tombe, là, c'est le nombre de chutes, il tombe deux fois par minute. Vous le traitez par du placebo pendant 16 semaines, il tombe toujours deux minutes, ça ne passe pas grand-chose. L'animal malade, qui a la vraie maladie, comme l'homme, vous traitez par placebo, il tombe beaucoup plus, vous voyez, hein, deux fois, là, il tombe six fois. Vous traitez par le placebo, il ne se passe rien. Cette drogue ici, PXT25, il ne se passe pas grand-chose. Mais ces deux-là, c'est testé seul, hein, séparément. Vous voyez que ces deux-là, qui sont des génériques qui viennent de, qui n'ont rien à voir avec cette neuropathie, qui n'ont jamais été imaginées une seconde pour cette neuropathie, vous voyez qu'elles améliorent l'animal, le faisant se rapprocher, sans l'atteindre, l'animal normal. Vous n'êtes pas guéri, mais vous l'avez bien amélioré. Je suis bien content parce qu'il y a zéro médicament qui fonctionne dans cette maladie. Donc, j'ai déjà, en prenant les médicaments un par un, bon, je suis arrivé à prédire que ça marchait et ça marche. Deuxièmement, en les prenant un par un, ça améliore et c'est significatif. Je suis content. Bon, je pourrais aller les tester chez l'homme. Est-ce que je suis content avec ça? Non. Notre hypothèse, c'est si je mélange des médicaments, ça va être encore mieux. D'accord? Donc je fais. J'ai pris sept molécules qui sont toutes actives individuellement. Mélangeant les sept à la dose, au 30e de la dose équivalente chez l'homme. 7 médicaments au 30e des médicaments déjà existants. Vous avez vu là, c'était pour voir quelque chose, c'était ici en 16 semaines. Là, je vous montre. 4 semaines. 4 fois plus vite. Voilà le nombre de chutes. Ici, l'animal normal malade tombe de ça. L'animal traité tombe beaucoup moins, exactement comme le sujet normal. C'est-à-dire, il est guéri en 4 semaines, alors que par chaque drogue individuelle, il fallait attendre une amélioration sans guérison en 16 semaines. La même chose si je regarde la latence, combien de temps il reste sans tomber, longtemps s'il n'est pas malade, pas longtemps ici s'il est malade, et quand je traite, paf, il revient comme le normal, en 4 semaines. Donc voilà, une combinaison de 7 médicaments qui existent déjà, qui ont littéralement guéri, lessivé la maladie de ces animaux en 4 semaines. Ça ne s'est jamais vu. Et ça, c'est toujours en partant d'hypothèses qu'on a formulées au fur et à mesure en disant la biologie, c'est multifactoriel. Il y a un peu de génétique, il y a un peu d'environnement. Si je peux trouver les réseaux, je peux trouver un ensemble de médicaments, je vais les donner en même temps, ça va être synergique. Je mettrai moins de doses, ça sera plus rapidement efficace. Là, les médicaments sont utilisés au 30e de la dose usuelle. Donc, c'est un effet toxique négligeable. Donc, voilà, pour vous dire pourquoi je pense que la pléothérapie va supplanter la monothérapie. Un, parce que ça marche, pour commencer, et deuxièmement, parce qu'il y a une logique implacable que tout ce qui est multifactoriel, la réponse ne peut être que multifactorielle dans l'autre sens. Donc, voilà le résumé. Hein. Donc, rappelez-vous que les allèles programment l'activité des gènes par la quantité qu'ils fabriquent. Qu'au point de vue hérédité, seules les maladies monogéniques sont héréditaires, les maladies multifactorielles, c'est-à-dire toutes les maladies, la plupart, ne sont pas héréditaires ou très peu. Les maladies multifactorielles sont hétérogènes, elles sont divisées en plusieurs sous-types. Chaque sous-type bénéficiera d'un traitement différent. Je pense d'un cocktail pléothérapique différent, d'un pléomédicament différent. D'accord ? Que la pléotropie, justement, c'est ce qui nous permet, c'est le fait que les protéines sont en plusieurs fonctions différentes, ce qui nous permet de mettre tant d'espoir dans cette complexité en disant on va renverser le problème, on va réutiliser les médicaments pour plusieurs fonctions. D'accord ? Et que les conséquences médicales de ça, c'est qu'il est possible aujourd'hui d'identifier par les méthodes génétiques tous les réseaux perturbés. Tous les réseaux perturbés, ça commence. Mais comme les réseaux sont robustes, il faut utiliser une approche multicible et pas monocible. D'accord ? La pléiotropie permet de réutiliser les médicaments. D'accord ? Mais comme il y a une hétérogénéité grande, ce sera plusieurs cocktails selon le sous-type. Donc, le futur de la médecine, moi, je le vois comme ça. La pléiothérapie, vous avez une maladie bleue, une maladie jaune. chaque maladie, plusieurs sous-types, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et chaque sous-type, un cocktail de drogues existantes particulières, sachant qu'une drogue peut être utilisée dans plusieurs sous-types, ou d'une maladie à l'autre, dans un sous-type, voire deux autres. Une espèce de croisée comme ça, qui fait que, quelque part, l'avenir s'éclaircit, parce que l'industrie pharmaceutique ou académique est en très grave crise de découverte de nouveaux médicaments. Il n'y a plus de nouveaux médicaments, ils sont tous toxiques, ils sont tous pas efficaces. Donc la seule façon, parce que ça continue à être monothérapique, tout simplement. Donc la seule façon de s'en sortir de façon peu dangereuse, c'est la pliothérapie, des mélanges de petites doses de médicaments déjà existants, le risque est moindre et l'efficacité sera, comme on l'a démontré, bien supérieure. Dernier document, c'est la carte d'identité génétique. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? C'est parce qu'on a fait les cartes génétiques. Les cartes génétiques, ce n'est pas les cartes d'identité génétique. Les cartes génétiques, c'est ce qui permet d'analyser le génome en général et pas de chaque individu. Enfin, une carte d'identité génétique, ce serait quoi ? C'est, en fait, c'est une carte dans laquelle, pour chacun de vos gènes, on vous dit quel allèle vous avez, en gros. Bon. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Pas grand-chose. On pense que ça peut servir à prédire les maladies. Ça peut servir à prédire le pronostic d'une maladie ou à savoir à quel type de traitement vous allez répondre. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai ? Parce qu'il n'y a pas que les gènes qui interviennent dans le caractère. Il y a aussi l'environnement. Si vous regardez avec les gènes, vous aurez toujours des faux positifs. Donc ce n'est pas le bon test, l'ADN. Bon, une fois pour toutes. Quand vous voulez mesurer le taux de cholestérol, vous mesurez le taux de cholestérol. Vous ne mesurez pas les allèles du gène qui fabrique le taux de cholestérol. Donc, si on veut faire des prédictions fiables, il faut multiplier, c'est-à-dire assembler. Il faut détecter les protéines, pour une maladie donnée, toutes les protéines des réseaux qu'on peut détecter dans les fluides périphériques, le sang, les urines. On ne va pas regarder les protéines dans le cerveau. On ne va pas faire des biopsies de cerveau. On va voir ce qu'on peut détecter de façon périphérique. Pour les gènes, pour les protéines qu'on ne trouve pas par malchance dans le sang périphérique, on peut utiliser les gènes. Parce qu'effectivement, les gènes, vous les mesurez. L'allèle, enfin, l'orthographe des gènes, vous pouvez le mesurer n'importe où. Donc, vous aurez une combinaison génotype et protéines qui sera un meilleur prédicteur. Et ensuite, si on les connaît, on va rajouter d'autres facteurs. Je fume, je mange de l'aluminium, quand on les connaîtra mieux, qui vont permettre d'affiner les autres facteurs d'environnement qui vont permettre d'affiner la prédiction. Mais la carte d'identité génétique ne sera jamais, par essence, l'outil qui vous dira votre avenir, c'est ça. Non. Votre génome ne vous dit pas ce que vous allez devenir, il va vous dire ce que vous pourriez devenir si vous aviez un environnement de ce type. Comme vous ne connaissez même pas votre environnement, vous ne pouvez pas savoir. Donc, ça n'a pas de sens. Par contre, la génétique permet de comprendre les réseaux moléculaires, donc de tirer des hypothèses, donc de tirer des médicaments. Ça, c'est une valeur immédiate, beaucoup plus, moins spectaculaire, mais apparemment, moins médiatique, je dirais, mais bien plus efficace pour les patients. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Alors, nous passons aux questions. Manifestez-vous. On a tout de suite une ici. Allez-y, monsieur.
Là. Oui, une première question. Vous dites qu'il faut doser en faible quantité les médicaments, mais on parle aussi de phénomène d'accoutumance. Et si les doses sont insuffisantes, il n'y a pas d'action du médicament.
Non, mais ça n'est pas toujours. Ça dépend de la maladie, ça dépend. Si le médicament est seul, ça peut arriver. D'accord ? Rappelez-vous là, encore une fois, qu'on associe plusieurs molécules différentes. Mais cela dit, alors, l'accoutumance, moi je vais vous dire, je suis à peu près convaincu que c'est un phénomène qui pourra s'étudier très bien. On ne fait pas. Ce qu'on ne regarde pas, si vous voulez, pour chaque stade de la maladie en particulier, si c'est toujours le bon médicament. Et l'accoutumance, il vient peut-être de là. C'est que, avec l'âge, on est moins répondeur. Donc on dit on est accoutumé, c'est pas qu'on est accoutumé. On est moins répondeur. c'est pas à cause du médicament, c'est la maladie qui a changé et l'environnement qui a changé. Donc je pense qu'il vaut mieux dire on va adapter les mélanges de pléomédicaments avec, dans le temps de la durée de la maladie.
Deuxième point, la politique des essais cliniques est totalement opposée à la polythérapie. Parce que vous ne pouvez pas savoir si un médicament agit. Si vous...
Pas du tout, mais alors, attends, je m'arrête tout de suite. Vous arrêtez tout de suite. Je viens de passer deux journées à l'IMIE avant-hier, dans lequel j'ai présenté le protocole. Ils m'ont dit c'est acceptable, recevable. Comme il n'y a pas d'autre solution, on va le faire. Merci encore, M. Cohen. Donc, non. Non, c'est un peu plus compliqué quand il y a des mélanges, mais la réponse est très simple. Si votre mélange est très efficace et pas toxique parce que justement vous mettez des doses plus faibles, on fera des essais très simples. Votre mélange contre le placebo ou contre une drogue existante sans aucune altermement.
Ça supposerait que le médicament que vous essayez est déjà un mélange.
Et déjà ?
Chaque médicament est un mélange à ce moment-là.
Chaque médicament est un mélange, oui.
Monsieur.
Deux questions. Vous nous avez exposé essentiellement une technique de recherche. Il y en a qui ont critiqué ce type de recherche en disant que la physiopathologie de la maladie n'était pas prise en cause. Ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument ? Et deuxième question et dernière question, pourquoi, alors qu'on a injecté des millions de dollars dans la recherche en thérapie génique, en particulier pour les cancers, il y a si peu de résultats ? Car d'après un livre que j'ai lu récemment, qui est de M. Jourdan, peu importe, eh bien, il y a eu les enfants bulles, et peut-être en Chine, certains cancers de la sphère otorino. Pour lui, c'est les seuls résultats actuels, alors que ça fait très longtemps quand même que la thérapie génique existe.
Alors la première question, c'est pourquoi il n'y a pas de... Qui vous a dit qu'on ne fait pas de physiopathologie ? Je ne vois pas d'où on sort ça. Justement, le fait de pouvoir... C'est à partir du moment où vous avez pu identifier les réseaux perturbés que vous commencez à faire une physiopathologie intelligente, pas avant. Donc la physiopathologie, on en tient compte. Dans ce moment, on en tient compte, mais en plus, on l'enrichit en mettant en corrélation molécules et physiopathologie. Donc ça, je ne crois pas qu'on... Enfin, moi, je n'ai pas subi ce genre de critique sur la paléothérapie de ce type-là. Sur la thérapie génique, attention, la thérapie génique fonctionne dans les... ne peut fonctionner réellement aujourd'hui que dans les maladies monogéniques. Alors, un gène qui est cassé, j'essaie de le réparer. Alors, donc, il y a 95% de la pathologie qui ne va pas bénéficier de la thérapie génique parce qu'il y a trop de gènes à changer. On n'a pas envie de faire ça, en tout cas, pour ces... Donc, cela dit, ce n'est pas une technique facile non plus, la thérapie génique, parce qu'il faut pouvoir... En gros, greffer un gène sans normal, hein, pas cassé, pour réparer. Aujourd'hui, on sait que greffer le gène un peu n'importe où dans le génome, donc il va s'introduire, on ne sait pas où, des fois, casser d'autres gènes et créer d'autres maladies, dont des cancers, c'est ce qui arrive. Le grand espoir que j'ai dans les formes monogéniques de la pathologie, c'est une nouvelle technologie inventée par des chercheurs français qui s'appelle la chirurgie génomique, dans lequel ils réparent le gène in situ, c'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails, ils vont corriger, si c'est un A à transformer en T, ils transforment le A en T sans changer quoi que ce soit dans le génome, juste l'erreur. Donc là, on peut imaginer que ce genre d'outil sera beaucoup plus utilisé parce qu'il est moins dangereux que les outils de la thérapie génique d'aujourd'hui.
Bonjour.
Selectis, la société française qui a développé cette méthode de Pasteur.
Alors, une question beaucoup plus basique. Mon père est atteint de la maladie d'Alzheimer.
Je vous vois pas, madame. Ah, je vois.
Oui. Oui, mon père est atteint de la maladie d'Alzheimer. Vous avez expliqué qu'il n'y avait que 3% de chances qu'il soit monogénique et donc héréditaire. Est-ce que j'ai un moyen simple à ma disposition aujourd'hui, peu onéreux, de me rassurer sur ce point?
Oui, d'abord, très simple. Les formes monogéniques surviennent très, très, très tôt dans la vie. Donc, si lui est... Je ne sais pas à quel âge il a commencé. S'il a commencé la maladie à 70 ans, il y a peu de chances qu'elle soit... Si elle a commencé très tôt, elle peut être monogénique. Et à ce moment-là, il faut... On peut vérifier sur lui. Il y a 3 gènes à vérifier. Hein. Vérifier s'il atteint cette forme-là. S'il est atteinte, vous pouvez, si vous voulez, savoir si vous êtes porteuse ou pas, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. D'accord. Donc, dans ce genre de situation, il y a, comme toujours, il y a une diversité extraordinaire, une pléoréaction, on va dire. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent savoir, il y a d'autres qui ne veulent pas savoir. Alors, autant respecter, dans les deux cas, leur désir intérieur. Je connais, j'ai un ami qui a le même problème, il voulait savoir, il a su, bon, c'est tout. Il a pu mieux tirer les conséquences pour sa vie future. Et, en fait, là, en l'occurrence, il n'était pas atteint, mais il a tiré. Il voulait savoir. D'autres disent, oh, je ne veux pas savoir, parce que ce n'est pas traitement, ça se défend. On dira, le jour où il y a un traitement, je voudrais savoir pour commencer le traitement plus vite. Alors, cela dit, moi je pense que pour la maladie d'Alzheimer, j'imagine pas de nouveaux traitements réellement avant une dizaine, une quinzaine d'années. Donc c'est le timing qui est... Il faut quand même le savoir assez tôt. Là, plus tôt vous savez, donc plus tôt vous commencez le traitement, et plus vous avez de chances de récupérer très vite, voire de guérir hein, complètement.
Où est-ce qu'il y a une... Voilà. Oui, allez-y.
Bonsoir. L'effet placebo s'appuyant sur une suggestion psychologique, comment l'appliquez-vous à l'animal? Et deuxième question, vos thèses se basant sur la réduction de l'utilisation des médicaments à la fois en quantité et en évitant de nouveaux médicaments, quelle chance avez-vous de réussir face à l'avidité mercantile de l'industrie pharmaceutique?
Ouh, fallait pas me poser cette question. Bon, je vais vous répondre. Alors, placebo. Chez l'animal, je pense qu'il n'y a pas d'effet placebo. Hein. Bon, enfin, on n'en sait rien, mais il y a peu de chance. Bon, cela dit, quand l'animal, vous donnez ou de l'eau contre le médicament que ça marche, vous êtes plus... rassuré sur l'issue. Chez l'homme, l'effet placebo est un problème extrêmement intéressant que j'ai étudié. Évidemment, il y a une génétique de la réponse au placebo. Tout le monde ne répond pas au placebo. Et ça dépend de vos gènes. Ça n'est pas encore entré en pratique, mais c'est important à savoir, parce qu'il y a des gens qui sont placebo-répondeurs. Est-ce qu'il faut les garder, pas les garder, on va voir. Mais c'est une approche très importante sur la façon d'envisager les futurs essais cliniques. Alors maintenant, le fait d'utiliser des molécules existantes, c'est ça que vous voulez dire. Bon. Je vais réagir sur la deuxième remarque, c'est le mercantile des sociétés pharmaceutiques. Écoutez, moi, j'étais 20 ans de recherche publique et 10 ans de recherche privée. Hein. J'ai trouvé des imbéciles des deux côtés. Hein. Des mercantiles des deux côtés. Et si c'est peut-être même plus du côté académique que du côté industriel. Une hypocrisie énorme du côté académique à dire on n'a pas l'argent alors qu'on fait tout pour en gagner sans vouloir le montrer. C'est insupportable, pour commencer. Donc, un peu plus d'honnêteté, simplement, on a tous besoin d'argent pour vivre et puis rien à cacher. Bon. Surtout quand on est transparent. Maintenant, de dire que les sociétés pharmaceutiques sont mercantiles, il y a toujours la même chose. Il y en a qui sont mercantiles de façon odieuse, mais il y en a d'autres qui se comportent tout à fait bien, qui font exactement leur travail, sachant que si vous voulez qu'il n'y ait pas d'industrie qui traite les médicaments, ben vous avez qu'à payer vous-même le développement des médicaments avec vos impôts. Et vous apercevrez qu'il n'y aurait plus un sou, si on utilisait l'argent des impôts pour faire les médicaments, on n'aurait plus un sou ni pour la justice, ni pour l'éducation nationale, ni pour construire les routes. Donc, on arrête. On a besoin de l'investissement privé pour construire. On a besoin du profit pour que ça marche. Donc, on le vend ces idées un peu saugrenues. Il y a toujours des dérapages dans l'utilisation mercantile, comme vous dites. Mais sans mercantilisme, il n'y a pas d'investissement, donc vous n'aurez pas de médicaments et on continuera à mourir comme ça. C'est tout, c'est très simple. Bon, je rejette votre deuxième remarque. Alors, dans ce cas-là, je vous dis, c'est très simple, c'est des médicaments existants. C'est-à-dire, donc ça va coûter cher. Ben, c'est quand même brevetable parce que c'est une nouvelle composition, donc on fera payer le prix du marché. C'est tout, ni plus ni moins. Parce que c'est des années de recherche, des années d'efforts, des investissements colossaux pour arriver à mettre sur le marché, ça ne va pas être gratuit. Et c'est normal. Voilà. Et j'ai été clair, je crois.
Monsieur.
Pouvez-nous dire si le raisonnement sur la pléothérapie microbienne ou virale au motif que c'est réglé, ou est-ce que, au contraire, l'attaque ciblée d'un médicament sur le microbe ou sur le virus a un sens?
Alors, non, c'est les infectiologues qui ont inventé la pléothérapie. Hein. C'est dans les infections où on donne plusieurs antibiotiques pour traiter le même agent, plusieurs antiviraux pour traiter le même virus. La tuberculose, on le guérit avec deux ou trois antibiotiques. Donc, c'est les associations de médicaments, c'était premièrement trouvé en infectiologie. Je pense que ça continuera. Maintenant, on peut imaginer de trouver des traitements pléothérapiques dans les infections, mais pas pour guérir l'infection, mais pour faire que l'infection soit en des conséquences moins graves chez le patient. Vous allez comprendre tout de suite. Prenez le paludisme, un exemple très particulier. Il y a des millions d'individus atteints de paludisme, je sais, des centaines de millions, mais il y en a quand même 2 millions qui meurent tout par an, en 15 jours. Ils sont piqués, il y a le plasmodium qui serait. En 15 jours, ils meurent, le plus souvent des enfants. Donc, c'est des formes, et ils meurent. Alors, tous les enfants n'ont pas de ces formes gravissimes, hein, c'est une certaine proportion. Donc, on pourrait imaginer de faire la génétique. Quels sont ces enfants? Comparer les enfants qui meurent vite avec ceux qui tiennent le coup, trouver le réseau et donner un médicament, ou un pléomédicament qui permettra à une forme très sévère de devenir immédiatement forme bénigne, par exemple. Bon, je le verrai plutôt comme ça. Mais la pléothérapie a été inventée par les infectiologues.
Question, une ici et puis une là.
Oui, bonsoir. Est-ce que les essais que vous avez faits sur les animaux sont facilement transposables chez l'homme?
On va les commencer. Donc, on peut faire le même type d'échec chez l'homme, c'est-à-dire prendre 7 molécules, les mélanger dans une capsule, donner pendant une certaine période de temps à des humains et comparer avec l'effet que ferait le placebo. C'est pas difficile. Pardon? On ne sait jamais, tant qu'on n'a pas fait chez l'homme, on ne sait jamais. Il y a toujours des surprises. Enfin, disons, l'exemple est assez bon parce que cette maladie-là est une des rares maladies où le modèle animal ressemble tellement à l'homme. C'est vraiment exactement la même, ce qui est assez rare en général. Voilà. Mais pourquoi alors, vous avez une bonne remarque quand même, j'en profite. C'est comme nos données sont issues de données humaines, de la génétique humaine, donc je suis très confiant que ça a marché chez l'homme, parce que je ne suis pas parti d'une hypothèse animale. Il s'avère qu'elle a marché chez l'animal, tant mieux. Mais au départ, c'était un réseau trouvé avec la génétique humaine, donc les réseaux étaient perturbés de cette façon-là chez l'homme, et pas chez l'animal. Donc c'est encore plus de chances de marcher chez l'animal, à la limite. Hein.
Une dernière question. Allez-y.
Oui, bonsoir. La pléothérapie a l'air d'être une voie nouvelle et plutôt admirable. Est-ce qu'il y a beaucoup de pléothérapeutes dans le monde et quand est-ce que le grand public pourra en bénéficier à grande échelle, à votre avis?
Oui, alors c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de pléothérapeutes? C'est comme M. Jourdain. Hein. C'est dans l'inconscient collectif de toute l'industrie, mais elle ne le fait pas parce qu'elle est bloquée par des blocages de structures. Réutiliser d'anciens médicaments pour nouvelles indications, c'est devenu un sport mondial, mais un par un. Donc il y a à peu près une vingtaine de médicaments qu'on utilise d'abord pour un, puis on s'est aperçu que ça marchait pour autre chose, à cause de la pléiotropie. Le Viagra. Hein. Le Viagra, ça était prévu pour l'insuffisance cardiaque, puis on s'est aperçu, simplement parce que pendant les essais, il y a des malades, je pourrais pas avoir un peu encore, s'il vous plaît, que ça pouvait marcher pour autre chose. Il n'y a pas que ça. Il y a des médicaments qui marchent, je connais très bien, dans le cancer et aussi la maladie bipolaire, la psychose maniaque dépressive. Ça n'a rien à voir, le cancer. Ça marchote dans les deux. Donc ça, il y a une vingtaine d'exemples de plus en plus fréquents maintenant. C'est devenu un sport mondial. Ça s'appelle drug repositioning. C'est un mot idiot, américain. Repositionner, c'est repositionner mon médicament sur le marché. Bon, on s'en fout. Sur le marché. C'est sûr, on réutilise le médicament pour une nouvelle indication. Donc ça existe depuis une dizaine d'années. Et mélanger des médicaments, je vous dis, c'est en cancéro, en infectieux, dans l'hypertension, ça se fait. Mais ça ne se fait pas pendant le processus de découverte, ça se fait après, une fois que les médicaments sont sur le marché. Donc on fait une seule chose, on combine les deux concepts et on l'initie dès la phase de découverte. Alors ça va être connu, c'est connu maintenant, hein, il n'y a pas de problème. Il y aura le premier congrès de pléothérapie mondial qui aura lieu à Paris en mars prochain. Et il y a une société internationale de pléothérapie qui va s'installer bientôt, qui sera basée à Paris, je pense. Mais genre, même dans l'industrie, beaucoup de gens, ils pensent, mais ils n'ont pas encore formalisé le concept. Ils ne savent pas pourquoi c'est possible. Ils n'ont pas fait le raisonnement biologique. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas généticiens. Nous l'avons fait et on a dit, il faut aller par là parce que la génétique et la biologie nous disent que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. C'est aussi bête que ça.
Bien, nous allons remercier Daniel Cohen. Merci beaucoup. Thank you.